Chapitre 52. Yuna est assis dans sa voiture sur le chemin du retour vers Stockholm. Une neige légère annonce la tempête qui se déplace actuellement vers l'ouest depuis le nord de la Russie. Pendant qu'il conduit, il se remémore la séance d'hypnose. Il pense aux yeux écarquillés de Grint, au visage effrayé d'Agnetha, à sa main couvrant sa bouche. Il revoit Hugo se réveiller, le regard tourné vers l'intérieur, répétant ses propres mots. Une énorme quantité de sang. Eric lui dit de fermer les yeux à nouveau, de se détendre un peu plus. Puis il sort correctement de la transe. Ouvre les yeux, mais reste encore un peu allongé et prends le temps d'assimiler ce que tu vois dans cette pièce. Tu peux t'asseoir quand tu es prêt et boire un peu d'eau. Yuna sait qu'Eric avait peu de temps. Il est difficile de plonger les gens trop longtemps dans leur traumatisme. C'est un terrain inconnu. À chaque session, Eric doit tâtonner pour déterminer quelles sont les voies les plus appropriées à chaque individu. Tout indique que Hugo a été témoin d'un des coups mortels durant les quelques secondes qu'il a passées derrière la fenêtre. C'est comme si Eric mettait méthodiquement la vérité en lumière. Les détails ne correspondent pas encore tout à fait à la reconstitution qu'ont proposé Erickson et Nolan. Il peut encore y avoir des fragments de rêve mêlés au témoignage de Hugo, ce qui en trouble l'exactitude, mais Yuna sait qu'Eric se rapproche de la vérité à chaque séance. La première fois, Hugo est entré dans le camping et a aperçu la tueuse. La fois suivante, il a décrit le meurtre, mais sans aucun souvenir de lui à l'intérieur de la caravane. Il n'est pas impossible qu'il ait fait face à la tueuse. Peut-être que Hugo acceptera une troisième séance et qu'ils pourront obtenir une description déterminante. Yuna gare sa voiture dans le grand parking, prend l'ascenseur jusqu'à la NOA au 8e étage et traverse rapidement le couloir. En marchant, il pense au sang dans le garage à Stocksund, aux éclaboussures projetées au plafond par la hache lorsqu'elle s'est levée avant de frapper une deuxième puis une troisième fois. Le mari d'Ida a été informé. Il était à Tenerife, mais prendra le premier vol. Leur fils de 5 ans passait la nuit chez un ami et y restera jusqu'à ce que son père puisse venir le chercher. Le meurtre d'Ida a bouleversé toutes les théories qu'ils avaient échafaudées. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la même tueuse, celle qu'on appelle la veuve. Mais le schéma général est brisé. La victime était une jeune femme et non un homme d'âge moyen. Yuna a réuni l'équipe. Tout le monde doit immédiatement se replonger dans les archives afin de chercher des similitudes avec d'anciennes affaires impliquant cette fois-ci des femmes assassinées. Ils ont sans aucun doute affaire à une tueuse en série active. Yuna revoit le garage ensanglanté. C'est comme si son intention avait été de tuer Ida, mais qu'une colère aveugle avait pris le dessus presque immédiatement. Une rage dont seule la fatigue physique était venue à bout, lorsque la tueuse n'a plus eu la force de lever sa hache. L'équipe au complet est présente dans la salle de réunion. Yuna s'avance et serre la main du commissaire Bondesson, qui vient de les rejoindre. C'est un homme plus âgé, au visage maigre et ridé, aux sourcils broussailleux. Ses cheveux blancs forment un croissant à l'arrière de sa tête. Bondesson est très expérimenté, il fait partie de la Commission nationale des homicides depuis sa création. « Je ne sais pas pour les autres, » dit Bondesson en faisant un geste vers les photos, « mais mon vieux cerveau a toujours un premier réflexe qui consiste à interpréter certaines scènes de crime comme chaotiques, alors qu'en réalité, elles devraient être lues mot à mot, comme une histoire parfaitement compréhensible. » Yuna s'assied et passe en revue les nouveaux éléments. Cette fois, la victime est une jeune femme, une mère, dit-il. Ensemble, ils examinent les photos de la scène de crime. Tout le monde s'accorde à dire que ce meurtre fait partie des plus violents avec celui de la caravane. Anna Anderson observe une photo de la grande flaque de sang où l'on voit une empreinte laissée par un pneu de vélo d'enfant. La veuve a déplacé le vélo juste au moment où le sang commençait à coaguler, dit-elle en fronçant les sourcils. « Laisse-moi voir, » dit Yuna. « Un peu plus haut, un peu plus bas, » montre Anna. « Étrange, » murmure Bondesson. seulement quelques centimètres dans chaque direction, dit-elle. La tueuse a gonflé les pneus, dit Yuna. Eh oui, soupire Anna, regarde, les autres vélos ont les pneus à plat. Vous voulez dire que la tueuse massacre la mère, mais prend gentiment le temps de gonfler les pneus du vélo du garçon ? Demande Richard Rosslund. Manderson se lève lourdement de sa chaise, annonce qu'il va fumer une cigarette et lance à Yuna un regard appuyé. Le groupe commence à se répartir les tâches, création d'un nouveau profil et nouvelles recherches dans les affaires non résolues. « Nous n'avons toujours pas de nouvelles d'Olga Wojcik, » dit Anna. Yuna se lève, saisit son manteau, quitte la salle et emprunte le couloir. Pendant qu'il attend l'ascenseur, il regarde le tableau d'affichage où sont exposées des invitations à des repas de Noël, à des soirées vin chaud et à un séminaire sur les conséquences du renforcement du programme de protection des témoins par le gouvernement, en dépit de l'avis défavorable du conseil juridique. Yuna descend jusqu'au rez-de-chaussée, traverse les différents sas, arrive dans le hall vitré de la réception et voit, comme prévu, Bondesson de l'autre côté de la Polemsgatan. Vêtu de son long manteau en peau de mouton, le vieux commissaire fume sur le trottoir, dans la neige. Yuna sort dans l'air froid, se fraye un chemin entre les motos en stationnement et traverse la rue étroite pour le rejoindre.
Comme tu l'as sans doute remarqué, j'ai ressenti un pincement d'angoisse quand j'ai réalisé que j'avais peut-être commis une grossière erreur, dit Bondesson après un moment.
Tout le monde fait des erreurs, répond Yuna.
Mais j'avais des doutes déjà à l'époque, soupire-t-il.
Quand ? Bondesson tend le bras et laisse tomber son mégot dans le caniveau.
Tournons le dos à l'avenir et revenons 3 ans et demi en arrière. Tic, 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 continue-t-il. On est en été, c'est la première semaine de juillet, et les couloirs sont presque déserts. La commission reçoit un appel de la police de Lund. Je prends la voiture et roule vers le sud dans la nuit claire. Une femme, je me souviens encore de son nom, Lucia Pedersen, a été assassinée chez elle, une petite maison à Colombage, à Eustadt. Tué d'un seul coup de hache dans le cou. Je me souviens de ça. Lucia était dans la cuisine en train d'ouvrir un colis de la pharmacie quand le coup est arrivé en biais, par derrière, et s'est abattu sur le côté droit de son cou, séparant la 5e vertèbre de la 6e. Elle est tombée en avant, morte avant d'atteindre le sol.
Bondesson allume une nouvelle cigarette, inspire profondément, expire. Enlève un morceau de tabac de sa lèvre inférieure, puis continue.
Le tueur avait pris la hache sur le tas de bois et l'avait laissée dans l'évier. Il n'y a aucune empreinte. Le manche avait été nettoyé avec un produit alcalin.
Tu as donc un tueur qui n'avait pas pris d'arme avec lui, mais qui savait qu'il y avait une hache dans le chalet d'été.
Lucia avait eu plusieurs relations extra-conjugales.
Un motif évident, dit Yuna.
Les preuves circonstancielles de l'accusation ont tenu à la fois en première instance et en appel, raconte Bondesson. Le mari de Lucia, Gerald Pedersen, a été condamné à 20 ans de prison malgré ses dénégations, et leur fille a été placée en famille d'accueil.
Je comprends. Tu penses maintenant que c'était la veuve qui a tué Lucia ? Quelque chose t'a fait douter à l'époque.
Quand il avait 12 ans, Gerald Pedersen a fabriqué une bombe artisanale assez puissante avec des amis et a perdu sa main droite. Mais le coup de hache a été porté par un droitier.
Ce n'est pas toujours facile à déterminer.
Non, c'est clair. Théoriquement, le coup était possible pour lui, mais... sous la forme d'un revers de la main gauche. Ce que pas un tennisman sur 1000 ne tenterait, mais oui, c'est possible.
Vous n'aviez pas d'autres suspects ?
Bondesson tapote sur sa cigarette pour faire tomber sa cendre. Le tueur a pris les bijoux que Lucia portait. Une petite croix en or avec une chaîne fine, 2 boucles d'oreilles en diamant et un bijou en argent avec une perle d'eau douce sur son nombril. Et il n'a pas fouillé la maison, n'a pas touché aux bijoux posés sur la coiffeuse. Donc la piste du cambriolage a été écartée. L'accusation a interprété ça comme un acte de jalousie. Gérald reprenait les bijoux qu'il avait offerts à Lucia. Ils n'ont pas été retrouvés lors de la perquisition, mais on a argumenté qu'il les avait jetés depuis sa voiture. Il y a une logique dans tout ça. Oui. Mais ce qui a été déterminant dans sa condamnation, c'est l'enfant, dit Bondeson. L'enfant. Le tueur a donné de la ventoline à la petite fille. Comment sait-on ça? La mère avait acheté un nouvel inhalateur pour sa fille. Le paquet de la pharmacie était sur le sol avec de l'ibuprofène, de la crème pour les mains et des tampons. Mais le tueur a pris le médicament, a ouvert l'emballage et a donné de la ventoline à la petite qui dormait dans son lit à barreaux. Puis, il a quitté les lieux. Je comprends. Il n'y a qu'un père pour faire ça, dit-il avec un sourire douloureux. Où est Gérald Peterson maintenant? Demande Yuna. Il a déménagé à Halle.